Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Avoir l'impression que l'environnement tend, que les murs bougent, le décor qui tournoie, l'impression aussi que le sol se dérobe, le tout associé parfois à des nausées, à un bourdonnement d'oreilles. Ces étourdissements ou vertiges peuvent être provoqués par des atteintes ou problèmes extrêmement divers. Alors, impossible bien sûr dans le cadre d'une seule émission de nous pencher sur tous les diagnostics associés à ce type de sensation, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi il est important de procéder à des examens pour rechercher l'origine de ces malaises, savoir s'ils ont été précédés de signes avant-coureurs, identifier leurs caractéristiques, comment l'incident est-il apparu, s'il est associé ou non à d'autres symptômes, dans certains cas, suspendre la prise d'un médicament ou à l'inverse, se voir prescrire un traitement qui résoudra le problème, engager s'il le faut une thérapie, évaluer de possibles déséquilibres en termes de tension, de glycémie, rechercher des maladies précises aussi, dans des spécialités aussi diverses que l'ORL, la neurologie, la cardiologie ou la vénérologie. Et pourquoi pas la gynécologie obstétrique, car un étourdissement peut également être le signe annonciateur d'un heureux événement. Vertige et malaise, quand consulter, comment les prendre en charge? Pour répondre à vos questions, à nos questions, nous retrouvons le docteur Alain Bismuth. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Boulogne-Billancourt. Des étourdissements fréquemment causés par des atteintes de la sphère ORL, on en parlera avec vous, docteur Gérald Fin, bonjour.
Bonjour.
Otorhinolaryngologiste à Paris, auteur de « Comment entendons-nous ?», notamment publié aux éditions Le Pommier. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Burkina Faso le docteur Gloria Bergès d'Amoaliga, médecin généraliste, chef de service des urgences et de la médecine générale de l'hôpital Chifra à Ouagadougou. Et puis en fin d'émission, on retrouvera le président du club RFI Goma, Zachary Bachouira, coordonnateur d'un projet de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, initiative qui cible les populations vulnérables dans cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Alors je le disais à l'instant, hein, pas question en moins d'une heure de nous pencher sur tous les diagnostics possibles associés à ces vertiges, à ces malaises, mais peut-être d'abord bien cerner notre question en distinguant justement les deux, docteur Alain Bismuth, pour ne pas confondre malaise et vertige.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord le vertige est un signe de consultation assez fréquent. C'est extrêmement vague pour mériter un minimum d'examen, voire d'examen complémentaire. Si ce n'est pas ORL, qui est quand même la cause la plus fréquente, je pense, de vertige, de mon expérience, il faut premièrement demander au patient quels sont les autres symptômes. Un vertige seul est assez rare. Alors les patients souvent viennent vous consulter pour des vertiges, mais ils ne vous disent pas qu'ils ont peut-être des bourdons d'oreilles, des maux de tête, des tremblements. Et c'est ça qu'il faut rechercher avant tout. Hormis tout ce qui est ORL, moi, je vois quatre origines principales, mais le vertige étant un signe relativement vague, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Mmh. Pour moi, les quatre orientations principales, c'est circulatoire, la tension, neurologique, ophtalmologique, et après, peut-être stress-anxiété. Mais ça peut être tout et rien.
C'est ça, c'est vraiment un signe très très large. Cette définition du vertige, pour aller plus loin, quand l'équilibre est en jeu, précisément, docteur Gérald Fin, dans notre organisme, quels sont les organes justement qui interviennent pour assurer cet équilibre et qui peuvent connaître des problèmes lorsqu'il y a justement trouble de l'équilibre?
Alors, ce que dit mon confrère le docteur Bismuth est tout à fait vrai. Il y a les instabilités. Une instabilité est souvent un problème qui ne vient pas de l'oreille. Quand ça tourne, ça vient de l'oreille. Et on a finalement 6 organes de l'équilibre. Les gens ne le savent pas, mais d'abord, les yeux captent l'information de l'endroit où on est et de notre position du corps. Donc on a l'œil droit, l'œil gauche. Ensuite, on a l'oreille interne droite, l'oreille interne gauche. L'oreille interne, ça capte la, l'accélération du corps, de la tête et du corps. Et ensuite, on a la peau, les muscles et les tendons qui nous permettent de savoir où on est dans l'espace. Et le cervelet, le petit cerveau derrière, capte les informations. Donc, le vertige vrai, quand ça tourne, c'est effectivement l'oreille interne. L'instabilité, ça peut être effectivement les yeux, les muscles, la peau, le cervelet ou d'autres maladies effectivement circulatoires ou émotionnelles. Donc, il y avait effectivement un fourre-tout dans ces diagnostics, mais l'interrogatoire, la plupart du temps très précis, permet de savoir à quel endroit ça se situe avant de faire les examens complémentaires.
Alors, on entend parler de vrai, de faux vertige, docteur Gérald Fin. En tout cas, dans quel cas une crise de vertige doit-elle conduire à consulter et assez rapidement ?
Alors, tout ce qui est faux vertige, c'est un peu ce que nous racontent les patients, c'est-à-dire le mal de mer, le mal des transports, la claustrophobie, l'agoraphobie, l'acrophobie sont des faux vertiges. L'interrogatoire permet déjà de savoir si c'est un vrai ou un faux vertige. Un vertige, c'est toujours très anxiogène pour les patients et effectivement, beaucoup de patients appellent le SAMU parce que lorsqu'ils ont un vertige, ils ont des signes d'accompagnement, de nausées, de vomissements, de transpiration, le cœur qui s'accélère, donc ils ont l'impression que c'est un accident vasculaire. Et effectivement, beaucoup de patients passent par le SAMU et vont à l'hôpital pour des vertiges qui pourraient être diagnostiqués tranquillement le lendemain matin. Donc, il faut consulter en urgence quand on a des troubles neurologiques associés. Les troubles neurologiques, c'est une instabilité, des troubles de la vision, vous voyez, qui ne sont pas des vrais vertiges. Et ça, c'est le rôle de l'équipe médecin spécialiste de faire la différence. Donc, un médecin généraliste est capable d'analyser une urgence comme un ORL. Et l'hospitalisation dépend vraiment des symptômes.
Et il y a un certain nombre de maladies ORL, on va dire, qui sont directement détectables, peut-être en premier lieu, grâce à ces vertiges.
Les vrais vertiges touchent 10% de la population, enfants comme adultes. Et l'interrogatoire nous permet de savoir quasiment en 5 minutes si c'est un vertige, ce qu'on appelle un vertige de position. Tout le monde sait ce que sont les cristaux dans l'oreille. Et ce sont des vertiges la nuit quand on tourne la tête. D'un vrai vertige qui survient dans la journée et qui dure plusieurs heures avec des vomissements.
Alors, une maladie comme la maladie de Meynière, dont on entend parfois parler, peut-être surtout chez les personnes âgées, comment décrire justement cette maladie et sa prise en charge ?
La maladie de Meynière, ça correspond à un glaucome de l'oreille interne. C'est-à-dire que dans l'oreille interne, on a un liquide qui est normalement présent et dans ce liquide baignent deux organes, l'organe de l'audition et l'organe de l'équilibre. La maladie de Meynière, qui est une maladie émotionnelle, c'est une hyperpression de ce liquide qui habituellement s'évacue par un petit canal qui est situé dans l'oreille interne. Et ce canal, chez certains patients, ne fonctionne pas bien. Ne fonctionnant pas bien, l'hyperpression du liquide va comprimer l'organe de l'audition et l'organe de l'équilibre et donner donc une surdité avec des vertiges invalidants. C'est 5% de l'ensemble des vertiges. Et on a actuellement des traitements extrêmement efficaces dans cette maladie qui sont très peu connus. Puisque c'est une maladie qui se traite médicalement et parfois chirurgicalement.
Docteur Alain Bismuth, avant de donner la parole à notre premier témoin, peut-être un mot sur le retentissement, on va dire psychique et émotionnel de ce type de malaise, de vertige. On peut dire que parfois, eh bien, ce n'est pas si grave que ça, mais le ressenti peut être complètement différent.
Alors tout à fait, comme pour tout autre symptôme ou pathologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau généraliste, l'appréhension du vertige, c'est quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, grossier qu'un spécialiste. C'est vraiment, nous, notre rôle, c'est de faire du dépistage, éventuellement du traitement. Donc, moi, quand je vois un vertige, je ne vais pas chercher plus ou moins quel est l'organe touché ou autre chose. Je vais poser des questions extrêmement simples. Est-ce que vous avez le vertige s'arrête quand vous êtes allongé? Est-ce qu'il augmente quand vous bougez la tête? Est-ce qu'il s'accompagne de nausées? Et ensuite, d'où l'intérêt d'avoir ensuite de faire des examens complémentaires et d'avoir un bon spécialiste après. Donc notre rôle à nous, c'est vraiment de faire du dépistage. L'appréhension du vertige, c'est quelque chose de très différent par patient. Il y a des gens qui tanguent beaucoup et qui sont tout à fait stables, et il y a des gens qui tanguent un peu et qui ne tiennent pas debout. Donc il y a un côté subjectif, émotionnel, qui peut être très compliqué pour les médecins et qui peut même brouiller le diagnostic, d'où l'intérêt ensuite de faire des examens complémentaires. C'est très différent pour chaque patient.
On va vous redonner largement la parole tout à l'heure, messieurs. Tout de suite donc ce premier témoignage dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Alors, ce témoignage, c'est le vôtre. Théo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, ces vertiges, pour vous Théo, ça remonte à quand? Racontez-nous un petit peu votre histoire, la tête qui tourne, mais quoi d'autre et dans quelle situation?
Alors moi, ça commence en février 2018. Je pratique le théâtre amateur, il se trouve que je suis sur scène et très vite je sens donc la tête qui tourne, les jambes qui flagellent, l'impression de perte de connaissance. En réalité, je ne perds pas connaissance, mais voilà, c'est cette impression-là que je ressens et je sens que quelque chose se passe pas bien et en fait ces vertiges vont me suivre désormais quotidiennement. Et jusqu'en juin 2018, personne, aucun médecin n'est capable de me dire ce qui se passe.
Vous consultez, mais vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pas rentrer chez vous? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors au départ, mon médecin traitant n'est pas inquiet. Hein, il me parle plutôt de fatigue, d'alimentation. Il cherche de ce côté-là. Mais comme, en fait, il faut laisser le temps au temps, voir si les vertiges s'estompent ou restent. Et ensuite, bon, ben voilà, il me fait passer toute une série de tests, de batteries, de prises de sang, etc. Mais à chaque fois, ça ne révèle rien. Tout va bien. On me dit que tout va bien. Mais les vertiges restent et donc le quotidien est bouleversé puisque c'est à plus ou moins forte intensité, mais c'est quotidien.
Et vous ressortez dans quel état d'esprit de cette consultation quand justement vous ressentez ce mal-être à cause de ces vertiges et qu'on vous dit on ne sait pas, vous vous sentez comment?
C'est très frustrant en fait parce qu'on vous dit, en fait on cherche la maladie grave, mais comme vous n'avez pas de maladie grave, bon, c'est rassurant, mais en même temps vos vertiges persistent et ça vous handicape au quotidien dans votre travail, votre rapport aux autres, etc.
On vous prescrit quelque chose? Quelle est la conclusion et qu'est-ce qui va déboucher sur un changement de situation?
Alors, en fait, donc mon premier médecin traitant, lui, quelque part, est désolé pour moi, mais il est désemparé, il ne sait pas me dire ce qui se passe. Donc, je consulte un autre médecin traitant et généraliste, et elle me dit, elle veut me faire passer une IRM pour lever le doute, mais elle sent que c'est autre chose. Et elle me dit, je pense que votre histoire, c'est psychologique. Et je pense que vous faites des crises d'angoisse.
Ouais. Est-ce que ça vous vexe? Est-ce que ça vous vexe quand on vous dit
non,
ça?
Non, 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 ça me vexe pas. Moi, vraiment, j'étais dans la recherche de la vérité, savoir ce qui se passait. J'étais prêt à tout, en fait. Hein. Donc, donc, elle me dit, je vous prescris une séance, des séances chez la psychologue. Elle me donne une adresse et j'y suis allé. C'était la première fois, mais j'y suis allé.
Et comment ça se passe?
Ben alors, on cherche, on fait des séances et en réalité, on se rend compte que effectivement, donc un an avant l'apparition des vertiges. Donc moi j'ai vécu une séparation en fait et si vous voulez j'ai tout intériorisé, j'ai intériorisé la peine, j'ai intériorisé une forme de colère hein, contre cette fille qui m'avait quitté. Et en fait pour résumer ça très simplement, toute cette énergie négative que j'ai accumulée en moi, elle s'est retournée contre moi et ça a créé donc ces vertiges.
Et voilà. Vous y aviez pensé à cette explication quand vous êtes allé voir votre généraliste ou c'était complètement caché, enfoui en vous?
Au départ, non. Au départ, c'était, je ne pensais pas à ça. Vraiment, je cherchais la cause physique. Je pensais pas que ça pouvait être psychologique. Mais ne trouvant pas, effectivement, j'ai ouvert plus de les champs en fait vers d'autres choses. Et en fait, ça faisait sens à partir du moment où les échanges en fait très très constructifs et très intéressants avec la psychologue ont fait sens en fait très vite.
Une thérapie, la parole, et aujourd'hui, ces vertiges, vous êtes comment par rapport à eux? Ils viennent encore vous perturber de temps en temps ou ils ont disparu?
Alors ça peut, mais c'est très rare. Déjà, je ne les crains plus, c'est-à-dire que quand les vertiges apparaissent, je sais que ça va être l'ordre de quelques secondes, en fait, et quelques minutes, et que je n'ai pas à m'inquiéter, je ne vais pas perdre connaissance. Moi, c'était ma plus grande peur, c'était ça. Mm-hmm. Et en fait, elle m'a aussi donné, la psychologue, des solutions, en fait, pour lutter contre ces vertiges. Elle me disait constamment, revenez à la sensation du corps, hein, puisque c'est votre esprit, votre cerveau qui vous joue des tours, revenez à la sensation du corps. Donc, des petits exercices de respiration discrets, des petits exercices physiques très discrets, mais qui permettent, en fait, de se concentrer sur ce qu'on ressent dans son corps et pas dans sa tête.
Une petite boîte à outils. Merci beaucoup, Théo. Merci pour votre témoignage. Merci à Raphaël Constant qui a préparé cet entretien. Justement, sur ce parcours du patient très important, le patient sujet au vertige, c'est quoi le réflexe, docteur Gérald Fin, vous êtes ORL, c'est d'aller voir un généraliste ou certains viennent directement s'adresser à vous? On a vu dans le cas de Théo que finalement, la réponse, il l'a trouvée du côté d'un cabinet avec un psychologue. Donc, on peut vraiment trouver des solutions chez différents spécialistes.
Alors l'histoire de Théo est édifiante de l'absence de réflexion diagnostic, c'est-à-dire que l'émotionnel chez lui est très important, et il décrit une maladie, si vous voulez, quand on lit et quand on l'entend, qu'on appelle une maladie de Ménière dissociée. Mmh. On a parlé tout à l'heure de la maladie de Ménière. Ben, l'émotion chez certains patients provoque une hyperpression du liquide, donc de l'oreille interne. Mmh. Et ce liquide de l'oreille interne, quand il comprime ce que l'organe de l'équilibre, ça s'appelle une maladie de Ménière dissociée. Mmh. L'examen clinique fait le diagnostic en quelques minutes par une vidéonystagmoscopie et surtout par ce qu'on appelle une IRM 3 Tesla, qui sont des IRM nouvelles que l'on fait depuis 3 ans, qui permettent de voir la dilatation physique de l'oreille interne. Et il décrit très bien ces crises émotionnelles, puisqu'il a une anomalie d'évacuation du liquide. Et ces maladies se traitent effectivement soit par, en amont, par psychothérapie, sophrologie, tous les traitements de l'émotionnel, ou en aval par des médicaments qui empêchent l'hyperpression du liquide.
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une motivation, on va dire, psychologique, que derrière, il peut pas y avoir une manifestation ORL.
Exactement. Sa manifestation psychologique a déclenché une maladie ORL, car il y a une anomalie anatomique. Et lui, il a la chance, et bravo, d'avoir été très bien pris en charge au niveau de l'émotionnel, ce qui a évité de donner des médicaments. Mais simplement, c'est dommage d'avoir erré dans un diagnostic qui semble un petit peu évident lorsque je lis son histoire.
Alors, des vertiges répétés, hein, c'est arrivé à de nombreux de nos auditeurs. Comme cette auditrice Judita, elle a enregistré ce message sur le répondeur de Priorité Santa. Elle est en ligne du Tchad. Judita, on l'écoute.
Bonjour Caroline et son invité. C'est Judita Tindebe avec vous depuis Abéché. Je suis âgée de 23 ans. Depuis le bas âge, je suis menacée par la vertige qui est devenue pour moi une habitude, surtout dans le mois de mars et avril. Vers les 13 heures, je reçois un trouble de vertige qui m'arrive à tout moment et me tracasse. Et parfois même me traumatise, dans lequel parfois j'arrive à tomber, ce genre de trucs. Quand cela arrive, je vois tout sombre devant moi et je reçois une palpitation un peu brusque. Ma question est si je peux avoir des solutions ou bien des conseils pour respecter, ça c'est un peu bien pour moi. Bonne journée à vous.
Vertige, il faut le préciser, un mois d'avril au Tchad, c'est la saison chaude, des températures parfois au-delà de 40 degrés, des étourdissements, Judita nous explique, surtout après le déjeuner. Docteur Alain Bismuth, difficile bien sûr de répondre, elle dit son regard se voile, elle a des palpitations, elle est un petit peu inquiète, mais elle n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'on peut en tout cas comprendre à travers ce témoignage?
Alors, merci, parce que c'est très compliqué comme truc, comme diagnostic. Alors, je pense qu'il faudrait faire des examens complémentaires. Je ne peux pas vous répondre comme ça.
Bien sûr.
Un bilan sanguin minimum serait le début. Je pense aussi qu'une IRM cérébrale et peut-être un contrôle cardiologique. Comme ça, spontanément, je me demande si c'est pas aussi également psychogène ou peut-être un problème cardiologique, hypotension ou trouble du rythme. Si ça est éliminé, voir un psychiatre. Voilà, comme ça, spontanément. Et peut-être aussi un problème ophtalmologique.
Donc, ça peut être très très large, mais en tout cas, peut-être le premier geste à faire, c'est une prise de sang pour faire un bilan sanguin, tout simplement.
Des vertiges comme ça itératifs, ça peut être la thyroïde, et ça peut être aussi une anémie.
D'accord, donc commencer par un bilan sanguin, parce qu'effectivement, pour une grande partie de nos auditeurs, pas forcément simple d'avoir une IRM, parce que c'est pas forcément accessible, et puis c'est pas accessible aussi d'un point de vue financier. Parmi les nombreuses explications de ces vertiges, faut pas oublier non plus les infections. D'ailleurs, docteur Bismuth, vous avez constaté la présence de vertiges chez certains patients que vous avez traités ces dernières semaines pour Covid-19.
Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Covid, les symptômes, ça peut être tout et n'importe quoi. On n'est plus du tout dans ce qui s'est passé au mois de février, où 99% des patients qu'on voyait, c'était fièvre, toux, courbature, qui étaient des symptômes assez typiques. Aujourd'hui, le Covid prend toutes les formes, et d'ailleurs, toutes les formes, sauf presque pulmonaires aujourd'hui. Le Covid n'est pratiquement plus pulmonaire, donc ça peut être de l'eczéma. Ça peut être une infection, ça peut être une rhopharyngite. J'ai même eu des patients, pas beaucoup, mais j'ai eu des patients qui ont fait une sorte de faux AVC avec hémiplégie et aphasie. Et en fait, c'était une infection par corona. Et j'ai eu quelques patients avec des vertiges très importants qui ont ensuite déclenché fièvre avec un écoulement nasal et qui étaient positifs par PCR au corona. Donc le côté infectieux dans le contexte actuel, n'est pas à négliger.
Et vous évoquiez tout à l'heure les raisons d'origine vasculaire, justement, cause à rechercher parfois dans certains cas du côté de cette tension artérielle. Tout de suite, témoignage, autre témoignage avec Ami qui nous écoute à Dakar.
Bonjour Caroline, bonjour docteur. J'ai 75 ans, je m'appelle Ami, je vis à Dakar. Voilà mon problème. Il m'arrive d'avoir des baisses de tension très brusques. Je descends à 8 brusquement. J'ai été voir un cardiologue qui m'a fait faire des analyses. J'ai dormi avec un appareil qui a dit que pendant mon sommeil, je fais des hypotensions. Je peux en faire 3 dans la même nuit. J'ai fait aussi une échographie du cœur et tout était normal. Même dans la journée, il m'arrive des tensions de 8. Et mes yeux se voilent d'abord avec une lourdeur aux jambes. Puis c'est comme si je m'endormais. C'est impressionnant et angoissant. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des conseils?
Tension à 8, docteur Alain Bismuth, cet auditeur qui a 75 ans, il l'a bien spécifié, il s'inquiète et il vous demande votre avis.
Alors, avant tout, l'hypotension, c'est pas grave. Ça peut être très handicapant, c'est même considéré comme pas une maladie. Ça peut être très handicapant parce qu'on ne tient pas debout, mais c'est pas grave. L'hypertension est grave. L'hypertension peut tuer. L'hypotension ne tue jamais. Donc c'est pas quelque chose de grave. C'est très handicapant, mais c'est pas grave. Pour notre ami, moi je lui conseillerais plutôt d'aller voir, je ne sais pas si c'est faisable, de se faire hospitaliser, de voir un interniste, parce que si l'examen cardiologique est normal, il faut s'orienter vers un problème des surrénales ou du système rénine angiotensine, qui est une pathologie qui me dépasse, je vous rassure, tout à fait. J'ai déjà vu des patients qui avaient un trouble de système rénine angiotensine ou un problème surrénalien. Mais là, il faut faire des examens complémentaires, on ne peut pas rester comme ça.
Surrénal, ça touche les reins?
Alors, les surrénales sont deux petites glandes qui sont au-dessus des reins. Oui, c'est à côté, bravo.
Voilà,
c'est
donc je révise mon anatomie régulièrement avec cette émission. Voilà. Alors, autre témoignage tout de suite, nouvelle illustration de la variété des explications, des questions. Auditeur du Cameroun, Mahamat, on écoute tout de suite sa question.
Salut Caroline et bonjour à votre invité de ce matin. Je m'appelle Mahamat, j'appelle depuis Kousséré au Cameroun. J'ai 34 ans. Je suis de traitement en santé mentale depuis 4 ans environ et j'ai des vertiges. J'ai des vertiges parfois le matin et parfois le soir. J'aimerais savoir si ces vertiges sont causés par les antidépresseurs que je prends. Au revoir, merci.
Alors, Mahamat, on le remercie hein, pour son témoignage, parce que pas facile de parler quand on a un problème de santé mentale, surtout quand on vit dans ces régions. Il prend ce médicament, des antidépresseurs. Avec ces médicaments, docteur Gérald Fin, c'est possible les vertiges?
Non. Il décrit donc probablement des épisodes d'instabilité qui sont la conséquence de ces troubles de comportement. Et les médicaments antidépresseurs peuvent provoquer des petites chutes de tension, des troubles digestifs qui simulent un vertige. Mais c'est pas vraiment la conséquence de son traitement. Moi, je pense que c'est un mélange de sa maladie psychiatrique et du traitement, mais les médicaments antidépresseurs ne donnent pas de vertige.
Malgré tout, un certain nombre de notices d'utilisation, hein, quand on ouvre les boîtes de médicaments, pour parler trivialement, il y a parmi les effets indésirables, effets secondaires, vertige, 3 petits points, nausée, 3 petits points. Comment on fait justement quand on ressent ça, quand on voit ça sur son médicament? Qu'est-ce que vous dites à vos patients, docteur Alain Bismuth, déjà au départ, pour ceux et celles qui nous écoutent? Surtout, n'arrêtez pas le traitement. Venez consulter?
Non, alors oui, n'arrêtez pas le traitement. Alors, Monsieur Fin a raison, les antidépresseurs ne donnent pas de vertiges, mais les anxiolytiques peuvent donner des vertiges. Donc, je ne sais pas si votre auditeur prend également des anxiolytiques. Et il faut savoir aussi que les vertiges, peut-être plus qu'un effet secondaire des médicaments, un symptôme de la maladie. La maladie dépressive n'est pas que de la dépression. Il y a des signes physiques. Et le vertige peut être un signe de la dépression. Alors, est-il insuffisamment soigné? Est-il trop soigné? Moi, je me demande s'il n'y a pas un petit... Enfin, c'est très compliqué de répondre comme ça, mais je me demande s'il n'y a pas un petit réglage au niveau des médicaments.
Donc au moins, retournez voir le psychiatre ou le médecin généraliste qui a prescrit ces médicaments pour en discuter avec lui, lui faire un retour sur ce petit malaise. On a évoqué tout à l'heure la tension, la prise de certains médicaments, la chaleur hein, aussi avec notre auditrice au Tchad. À présent, message d'Esther qui nous écoute, qui écoute RFI en République démocratique du Congo.
Et le problème que j'ai, et ça m'arrive des fois quand je suis dans la maison et que je vais sortir à l'extérieur. Une fois arrivé à la porte, si j'ouvre la porte, dès que je suis en contact avec la lumière de l'extérieur, c'est à ce moment-là que le vertige m'arrive. Et aussi si je suis assise quelque part ou dans la maison, même à l'extérieur, une fois que je veux me relever brusquement. C'est dans ce sens-là que le vertige m'arrive. Et je veux aussi savoir c'est quoi la cause.
Alors, sensibilité à la lumière, changement de posture. Docteur Gérald Fin, je pense que ça doit vous parler. Vous rencontrez également ce type de témoignage en consultation ?
Oui, c'est déjà très agréable d'entendre les grillons derrière votre auditrice, c'est très joli. Alors, il y a deux choses. Elle décrit des faux vertiges. Donc, la première chose, c'est quand je sors, je suis gêné. C'est la lumière qui gêne les yeux. Donc, elle a un trouble visuel probable à explorer avec parfois ce qu'on appelle une agoraphobie, c'est un peur de l'espace devant soi. Donc, ça, c'est déjà un faux vertige. La deuxième chose, quand elle se lève, on appelle ça des troubles hémodynamiques. C'est-à-dire, ce sont effectivement des modifications de la tension artérielle qui modifient la sensation au niveau du liquide de l'oreille interne et ça se traite avec des médicaments. Mais ce n'est absolument pas grave.
Ce n'est pas grave, mais elle peut consulter même un médecin généraliste qui pourrait lui trouver des solutions pour qu'elle se sente mieux.
Alors, pour dehors, les solutions, c'est de vérifier d'abord s'il n'y a pas des troubles visuels ou de porter des lunettes de soleil quand elle sort, tout simplement. Et ça réglerait le problème. Et la deuxième chose, on a des médicaments, effectivement, que les généralistes sont capables de donner qui empêchent ces troubles hémodynamiques quand on se lève.
Docteur Gérald Fin, docteur Alain Bismuth, vous restez avec nous. On part tout de suite pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Gloria Bergès d'Amoaliga, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef de service des urgences et de la médecine générale de l'hôpital Chifra, j'ai bien dit, à Ouagadougou. On a bien compris que ces vertiges pouvaient être provoqués par de très multiples causes. Il y a les malaises, les étourdissements. Docteur, est-ce que vous diriez que dans votre région, il y a des explications, des causes qui peuvent être particulières et liées justement à ce contexte tropical ?
Effectivement, Caroline, nous exerçons la médecine dans un autre contexte totalement. Et dans notre contexte, justement, il y a ces maladies infectieuses qui prennent beaucoup, beaucoup plus de place. Et donc, les vertiges sont souvent la manifestation de maladies parasitaires comme le paludisme. Dans le paludisme grave, nous voyons beaucoup de vertiges, ou même des malaises ou des pertes de connaissances. Nous avons aussi des maladies d'origine bactériennes comme la salmonellose, couramment appelée la fièvre typhoïde, qui donne beaucoup de vertiges. Et nous avons aussi des maladies virales comme la dengue, qui produisent beaucoup de vertiges. Et donc, dans les urgences, généralement, quand un patient vient pour un syndrome vertigineux, on passe d'abord au peigne fin, ces maladies infectieuses-là, sans oublier aussi les carences. Et les carences en magnésium, par exemple, prennent beaucoup de place. Et il suffit d'un simple complément en magnésium et le malade se retrouve. Les anémies, comme je l'ai entendu tantôt dans l'émission, et nous on a les hémoglobinopathies comme les drépanocytaires qui font beaucoup d'anémies chroniques et quand ils ne tolèrent plus l'anémie, c'est des vertiges et tout. Et des fois, les patients viennent un peu graves ou du moins dans un tableau un peu tard parce qu'ils ont plus ou moins gérer leur vertige comme ils pouvaient. Et c'est, quand l'anémie est décompensée ou on a perdu connaissance, qu'on court vers les centres de santé.
Et il faut faire attention justement quand on est atteint d'une maladie génétique ou chronique, bien sûr on pense au diabète, à l'hypertension, mais génétique comme la drépanocytose, si on a un vertige, on prend ça, on va dire, beaucoup plus au sérieux que si on est quelqu'un de bien portant.
Exactement.
Est-ce que vous faites face également, on va dire, même si la population est bien davantage habituée, au fameux coup de chaleur ?
Ah oui, j'entendais une du Tchad qui parlait de ses vertiges en avril et tout. Mm-hmm. Ben oui. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est habitué, mais les uns et les autres ne pensent pas à s'hydrater et ne pensent pas justement à se protéger du soleil, parce qu'on se dit couramment avec nos croyances que la peau noire tient par rapport à la chaleur. Et pourtant, on en reçoit des malaises liés justement à ces coups de chaud. Et des fois, en plus des vertiges, justement, il peut avoir des symptômes comme les saignements du nez et tout ça qui accompagne suite à l'insolation.
Est-ce que certains consultent le tradit praticien avant de venir vous pouvoir pour ces malaises, docteur Bergès d'Amoaliga? Est-ce que finalement, vous êtes parfois aussi là un petit peu, on va dire, pour rattraper les choses?
C'est l'impression qu'on a souvent, parce que tant qu'on peut se débrouiller, ça c'est le mot que je le dis entre parenthèses, hein, dans notre contexte, on va voir le tradit praticien à côté, tant que les symptômes voilà ne m'handicapent pas, ne m'invalident pas, ou en tout cas ne me fait pas perdre connaissance. Mm-hmm. Mais voilà, sauf que la plupart du temps, on vient trop tard. On constate toujours des décès à l'arrivée parce qu'on a géré. On a géré avec autrui ailleurs avant de venir dans les centres de santé, notamment les tradis praticiens. Donc, on se concerte justement et on sensibilise les populations justement à toujours se rendre en centre de santé parce que chez nous, le médecin généraliste n'est pas forcément accessible à tout le monde. Voilà, mais on a des agents de santé qui sont dans les communautés et qui accompagnent ou du moins qui vivent avec les populations et qui peuvent les orienter.
Alors, si vous le voulez bien, on va écouter un nouveau message d'auditeur avec une question que vous pose, docteur Siméon. Il est en ligne de RDC.
Bonjour, Priorité Santé. Bonjour, Caroline Paré et votre invité. Je suis Siméon, j'appelle depuis Kinshasa. J'ai 24 ans. Alors, j'ai des problèmes de vertige, c'est-à-dire que depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire que quand je m'assois quelque part, pendant un temps, si je m'élève de cette place, je ressens des vertiges. Des vertiges parfois très très forts. Alors, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital, on m'a dit que mon problème était lié à un problème de sang, c'est-à-dire que mon corps avait beaucoup de sang, le taux sanguin était élevé, et que par conséquent, je ne dois pas consommer avec modération, les aliments susceptibles d'augmenter les taux sanguins, comme les laits, les légumes et les fromages. J'essaie d'appliquer les consignes, mais malheureusement, les choses n'ont pas changé depuis. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est quoi les vrais problèmes? Merci.
Message enregistré par Siméon, problème sanguin. Alors, à travers ce message, qu'est-ce que l'on comprend? Un régime lui a été conseillé pour éviter légumes, fromage, lait. Docteur Bergès d'Amoaliga, qu'est-ce qui ne va pas, en fait, d'après ce message de Siméon? Ses vertiges, c'est quoi dans son sang? C'est quoi? C'est le potassium?
Oh non, pas forcément. Et comme le disait tantôt mon collègue, en fait, il faut forcément investiguer davantage. Parce que si c'est juste une augmentation de la volémie et tout, des fois, les saignées simplement, qu'on applique surtout chez les drépanocytaires, hein, les saignées peuvent soulager ce patient. Mais il faut être sûr qu'il n'y a pas un autre diagnostic derrière. Donc, je pense que si les confrères là-bas sont limités, ils vaut mieux peut-être rechercher un autre, d'autres recours pour pousser l'investigation avant de pouvoir dire, il s'agit justement seulement de sang. Parce que seulement le régime, si ça ne marche pas, c'est que sûrement une autre cause à cela. Si ce n'est la drépanocytose, bien sûr,
qui est fréquente.
Parce que comme ce domaine, les formes SC, par exemple, il y a des fois des taux d'hémoglobine qui peuvent aller jusqu'à 17, qui donnent justement des vertiges. Et en ce moment, on indique des saignées. Donc, nous, actuellement, on conseille vraiment à tous ces jeunes, africains de faire leur électrophorèse de l'hémoglobine pour savoir justement par rapport à cette pathologie avant de pousser justement l'investigation.
La recherche, justement, l'électrophorèse, il faut aller auprès d'un hôpital ou certains centres de santé, là pour le cas de la RDC, peuvent fournir cet examen très important.
Oui, je pense que y a la RDC comme le Congo Brazzaville, ils ont des centres particuliers où on peut faire justement le diagnostic. Il y a des tests de diagnostic rapide qui sont justement en cours d'investigation, en cours de vulgarisation en Afrique, qui peuvent aussi faciliter justement le diagnostic. Mais dans les hôpitaux, généralement, on a cette capacité de faire l'électrophorèse. Donc, si ce jeune homme ne l'a pas encore fait, ce serait bien de le faire pour être situé par rapport à ça.
Merci beaucoup pour ce conseil donné à Siméon et pour toutes vos explications, docteur Gloria Bergès d'Amoaliga. Excellente journée au Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Alors on retrouve nos deux invités en ligne pour la dernière partie de cet échange. Priorité santé consacrée au vertige, au malaise. Docteur Alain Bismuth, médecin généraliste, toujours avec nous, tout comme le docteur Gérald Fin, ORS. Cette dimension importante par rapport à ce type de symptômes, on ne l'a pas forcément encore évoqué. Docteur Gérald Fin, c'est l'âge. Est-ce qu'il y a un âge auquel on est davantage sujet au vertige?
Alors les vertiges touchent malheureusement et heureusement tous les âges. Les enfants, les parents viennent paniquer. Les personnes âgées, le mari ou la femme vient paniquer. Alors chez les enfants, c'est la plupart du temps des vrais vertiges, souvent totalement bénins. Et chez les sujets âgés, c'est souvent des troubles de la proprioceptivité, c'est-à-dire d'origine musculaire. Ce sont des gens, malheureusement avec l'âge, qui ont une force musculaire moins importante, une sensibilité tactile des tendons, des muscles moins importants. Et le traitement chez les personnes âgées, c'est la rééducation de l'équilibre, qui est une révolution thérapeutique dans ces instabilités chez les sujets âgés. Donc ça touche tous les âges, hein.
Et pour la sphère ORL, justement, qui vous concerne, pas de critères de genre. Les femmes ne sont pas plus touchées que les hommes.
C'est unisexe, c'est-à-dire que tout le monde est touché de la même façon, 50-50. Donc, c'est vraiment, quand on parle de l'âge, dans les vertiges, il ne faut pas parler de l'âge. Sauf l'instabilité qui touche plus, qui ne sont donc pas des vertiges, qui touchent plus les sujets âgés.
Docteur Alain Bismuth, justement pour ces critères, essayer de déterminer une sorte de vulnérabilité supérieure au vertige, le critère du genre, pour vous, le généraliste, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte?
Alors, homme-femme, à mon avis, c'est égal, il y a autant d'hommes que de femmes. Je dirais peut-être les femmes plus touchées par l'hypotension et les vertiges d'origine psychogène. Les hommes plus par l'hypertension ou les problèmes cardiaques ou neurologiques. Alors je n'ai pas d'expérience au niveau des enfants, je connais peu d'enfants de moins de 12 ans, on va dire, qui ont des vertiges, mais je ne suis pas ORL, donc à mon niveau, non, les enfants, je ne suis pas très concerné par ça. Au niveau sexe, c'est les deux.
On a parlé, oui, excusez-moi.
Ouais, plutôt les gens plus âgés, mais voilà.
Alors, on a parlé des symptômes, on va dire, pour rechercher, pour un peu défricher le terrain. On va dire aussi qu'il y a des éléments qui doivent absolument pousser à consulter davantage, faire des examens complémentaires pour rechercher parfois des pathologies lourdes qui peuvent être comme premier symptôme annonciateur. Eh bien, on peut être prévenu par ces fameux vertiges ou malaises. Docteur Alain Bismuth, il y a des maladies vasculaires assez graves ou neurologiques qui peuvent justement se signaler par des vertiges.
Avant tout, l'hypertension, qui, pas traitée, peut donner une hémorragie ou des pathologies irréversibles. Deuxièmement, tout ce qui est neurologique, tumeur du cervelet, abcès. Donc, avant tout, l'examen complémentaire est très important. Donc, c'est très important de faire une prise de sang et de faire un IRM. C'est ce que je dirais en premier, moi.
Et un point important, on l'a évoqué assez rapidement, c'est la santé des yeux.
À vie ophtalmologique, bien sûr. Mais quand c'est un problème ophtalmologique... Enfin, au niveau généraliste, vous en apercevez tout de suite. Le vertige seul en ophtalmologie, c'est assez rare. Il voit flou, il y a autre chose qui se passe. Mais un avis ophtalmo est bien sûr utile.
Docteur Gérald Fin, quand on entend tout cela, ce qu'on a envie de dire d'un côté, c'est qu'il y a des vertiges qui sont, on va dire, fortement désagréables et totalement bénins. Mais dans d'autres cas, justement, ils annoncent quelque chose de particulièrement grave. On peut comprendre dans ces cas-là que les patients puissent être inquiets. Comment on fait justement pour les rassurer sans non plus minimiser les risques?
Alors vous avez tout à fait raison, c'est un symptôme qui est extrêmement anxiogène et... Notre rôle, c'est de faire la part entre l'anxiété et la pathologie grave. C'est la difficulté de la médecine en règle générale. C'est de trouver ce qui ne va pas en rassurant, même si ça ne va pas. Les symptômes, qu'a dit très bien décrit le docteur Bismuth, sont assez parlants. Et c'est vrai qu'on demande assez facilement une IRM qui à la fois rassure le médecin et le patient. Donc l'IRM est l'examen fondamental quand le patient est très anxieux ou quand le médecin est très anxieux devant un diagnostic difficile. Le deuxième examen, c'est le bilan cardiologique, évidemment. Et à partir de là, les diagnostics se font en ORL la plupart du temps en quelques minutes, à l'interrogatoire et par les examens d'équilibre. Donc nous, les ORL, on demande effectivement assez facilement des IRM et on rassure le patient en lui expliquant longuement sa pathologie en consultation.
Alors justement, tout à l'heure, on va boucler la boucle. Notre premier témoin avait trouvé la solution dans une consultation psy. Il vous arrive, à vous, l'ORL, docteur Gérald Fin, de dire, peut-être en mettant bien sûr les formes, moi, je vous aide pour cela, mais il va falloir aussi consulter, aller en parler à côté.
Alors, toute maladie médicale compliquée est amplifiée par l'émotionnel, ou parfois l'émotionnel déclenche une maladie. Donc la prise en charge de l'émotionnel fait partie des thérapies médicales que l'on préconise quand c'est compliqué. Donc l'émotionnel, c'est la psychologie, la sophrologie, les thérapies comportementales, l'hypnose, etc. Donc on a beaucoup de techniques médicales, effectivement, qui traitent l'émotionnel en faisant très attention à ne pas passer à côté d'une vraie maladie médicale.
Et par contre, le problème, ce dont n'a pas fait preuve tout à l'heure notre auditeur Théo dans son témoignage, lui, il a bien pris les choses. Est-ce qu'il y a des patients qui se rebellent quand ils expliquent « voilà, j'ai un vertige ». Vous dites « écoutez, c'est quelque chose qui est assez simple, mais un accompagnement psy serait bien ». Et en gros, on vous répond « vous me prenez pour un fou ou un affabulateur ».
Non, il faut pas confondre la psychologie et la maladie. Mmh. Et donc, Théo a une vraie maladie déclenchée par son émotionnel fragile, mais sa vraie maladie, on lui a pas expliqué. Mmh. Donc lui, il s'est orienté de lui-même avec un médecin très intelligent dans les séances de psychologie. Mmh. Tant mieux. Mais parfois, malheureusement, la psychologie, la prise en charge de l'émotionnel ne suffit pas.
Et on l'a bien compris, toute la complexité de ces vertiges, de ces malaises, de ces étourdissements. Merci beaucoup pour toutes ces réponses à nos questions, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Docteur Gérald Fin, chirurgien otorhinolaryngologiste à Paris, et à vous, docteur Alain Bismuth, médecin généraliste à Boulogne-Billancourt en région parisienne.
RFI.
Et on rejoint à présent l'Est de la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu.
Pour voir que Corona, lave-toi les mains au savon.
Respectant les mesures d'hygiène partout. Quand tu sors de chez toi, mets ton casque-nez surtout. Totika, totika, kosimana. Un mètre de distance, on a pour sana. Kupana, mkono, aoyami, apana. Kusakinyo, pua, marto, apana. Corona, ezoboma.
Et on vous retrouve en musique, Zachary Bachouira, bonjour.
Bonjour Caroline.
Zachary, président du club RFI Goma, coordonnateur du projet qui est baptisé « J'accepte, je me protège et je protège ». Alors cette chanson, ça fait partie de votre projet. Première chose, Zachary, traduction en Swahili du nom, du slogan de votre projet. Qu'est-ce que ça fait en Swahili?
Oui, Caroline, en Swahili, ça veut dire Naitika, Najikinga et Nakinga, qui est un projet qui vise l'appropriation communautaire des actions de la riposte contre les épidémies en RDC, et plus particulièrement au Nord Kivu. Alors, Naitika, ça veut dire j'accepte que les épidémies, c'est une réalité, puisqu'il y a de gens qui nient totalement et qu'il n'y a pas ni Covid-19, ni Ebola qui sont des épidémies qu'on a traversées ici à l'Est. Mm-hmm. Alors nous sommes partis de cette négation, du fait qu'il y a des gens qui niaient totalement l'existence des épidémies, et ce qui a poussé à plusieurs résistances qu'on a pu rencontrer dans la riposte, qui a mené même jusqu'au décès des humanitaires, et au décès et à la pérennisation de l'épidémie, par exemple Ebola, qui a pris à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, Covid-19 qui est là, il y a d'autres personnes qui continuent à nier que réellement la maladie n'existe pas.
Oui, Zachary, on a beaucoup de messages en ce sens sur le répondeur de Priorité Santé. Justement, vous dites « j'accepte, c'est le premier plan ». Et ensuite, vous allez avec vos équipes à la rencontre des populations pour mettre en place des outils de prévention. En quoi est-ce que cela consiste? Comment vous faites passer la sensibilisation?
Oui, Caroline. Donc, pour passer la sensibilisation, on a mis en place plusieurs outils de communication pour amener les gens à accepter à se protéger et à protéger les autres. Entre autres, nous avons mis en place de bandes dessinées qui retracent les messages sur les modes de prévention, les modes de contamination, mais aussi qui invitent les gens à s'approprier les actions de la riposte pour éviter les résistances que nous retrouvons sur le terrain. À part ça, à part la bande dessinée, on a mis en place des petites vidéos qui sensibilisent, qui passent le même message. Nous faisons des théâtres radiophoniques qui essaient de sensibiliser davantage, comme le contexte actuel ne me permet pas d'être en contact permanent avec les gens. Alors, on a développé ces mécanismes de théâtre radiophonique et des émissions radio qui essaient de sensibiliser la communauté en mettant en place différents outils de pancartes et flyers et autres outils divers pour communiquer sur les modes de prévention, les modes de contamination et essayer de lutter contre les résistances et de détruire les rumeurs surtout qui sont parfois la source de tout ce que nous vivons ici.
Détruire les rumeurs en allant au plus près des gens, atteindre les populations sensibles, ça veut dire aussi faire du porte-à-porte, mais vous devez vous aussi vous protéger dans ce cas-là, parler aux gens en restant vous-même en bonne santé.
Tout naturellement, on a développé aussi les activités ensemble avec la coordination de la riposte. Nous avons développé l'activité de porte-à-porte qui est une activité qui nous permet d'être un peu plus proche de la population et qui nous permet aussi de divulguer les outils mis en place.
Est-ce que message, Zacharie, excusez-moi, est-ce que le message sur le port du masque, est-ce que ce message passe bien?
Pour le port du masque, évidemment, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il faut porter le masque. Il y a d'autres personnes qui le portent parce que c'est une obligation étatique. Tu trouveras sur la route, par exemple, quelqu'un avec son cache-nez à main, ou alors carrément il le porte au cou, et non pas, il ne couvre pas correctement la bouche. Alors nous, on arrive à sensibiliser les gens pour que les gens ne portent pas les masques par crainte de la police, mais qu'ils portent le masque parce qu'ils veulent se protéger eux-mêmes et protéger ensuite aussi les autres quand ils ont accepté de bien porter.
Ça veut dire sans cesse répéter le mode d'emploi. Justement, on peut le faire passer à ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Comment expliquer aux gens, tout simplement, comment on met bien son masque?
Évidemment, le masque, pour qu'il vous protège et pour qu'il protège votre entourage, doit bien couvrir la bouche et le nez. Alors, il y a beaucoup de personnes qui prennent juste les masques avec eux pour éviter d'être tracassés sur la route et non pas pour se protéger. Alors nous, on essaie de demander aux gens que lorsqu'ils sont en public, lorsqu'ils sont dans un transport en commun, lorsqu'ils sont au marché comme actuellement, surtout pour les contextes qui est le nôtre, c'est-à-dire au Congo, on a mal à confiner totalement comme ça a été en Europe, un peu partout.
Bien sûr, on comprend que ce ne sont pas les mêmes conditions. Il faut porter ce masque et il faut continuer, hein, comme vous le faites. Merci beaucoup, Zacharie Bachouira. Continuez de faire passer ce message. Très bonne continuation avec toute l'équipe du club RFI Goma. Et un grand merci à Audrey Yatoni. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute notre équipe qui fabrique, réalise l'émission. C'est tout ça, Maki, Ophélie Lassienne, Juliette Bro, aujourd'hui Didier Bleu, Laurent Hérault. Demain, nous parlerons de la schizophrénie, symptômes, diagnostic, prise en charge de cette maladie mentale, lutte contre la stigmatisation. À demain, d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et un petit masque aussi, c'est pas mal.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.